Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. L'arme de l'autre, il lui tend la lettre. Elle la prend et la déchire. Elle lui dit : Mon pauvre Charles-André, tu as préféré cette petite à moi. Avec moi, tu aurais eu un bel avenir, tu aurais été quelqu'un. Je te promets un triste avenir, pauvre misérable. Tu vois, je ne t'aime plus. Allez, partez tous les deux.
Elle va leur ouvrir la porte. Allez.
Il a pris Adrienne par le bras et il est sorti. A appelé un fiacre pour aller chez lui, a sonné, Apolline lui a ouvert, que se passe-t-il? Il lui dit, Adrienne n'est pas bien. Il faut la coucher de suite. On va coucher Adrienne. Dans le lit d'Apolline, elle lui demande : Que faut-il faire ? Laissons-la dormir et sous calmant. Et ils sortent de la chambre pour aller au salon. Apolline lui demande, tu peux me dire ce qui se passe? Il lui dit tout, la lettre et tout. Qu'allons-nous faire? Il lui dit, j'ai décidé d'épouser. Elle devient pâle et lui dit, tu devrais attendre un peu avant de prendre une décision. Nous sommes déjà ruinés à cause que tu as refusé Mathilde. On ferait peut-être bien de prévenir Paul. Fais comme tu veux. Apolline, pendant que Charles-André soigne Adrienne, va voir Paul dans son café-restaurant. Elle lui dit tout. Il lui dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Tout est perdu. Je ne connaissais pas cette histoire, mais quelle importance. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Elle lui demande, qu'allons-nous devenir? Je ne peux plus rien. Vous devez vous débrouiller tout seul. Apolline est furieuse. Si mon frère n'avait pas été amoureuse de cette petite idiote, nous aurions été heureux. Et elle le quitte. Les jours passent. Adrienne se remet petit à petit, mais elle reste très faible. Le frère et la sœur la soignent le mieux qu'ils peuvent. Ils ont appelé un médecin qui leur a dit qu'elle avait une grande faiblesse due à une grande fatigue. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, repos, repos, repos. Charles-André passe une grande partie de son temps près d'elle. Apolline passe ses après-midi et ses soirées avec Michel à préparer le spectacle. Mais c'est elle qui, deux fois par jour, lui apporte ses médicaments. Apolline apprend ses chansons et s'en sort à peu près bien. À tout bout de champ, Michel la touche, la caresse. Apolline n'aime pas ça. Ça lui fait un drôle d'effet. Les mains de Michel qui la tripotent, ses regards langoureux, ses baisers longs et mouillés. Cette façon qu'elle a de le plaquer contre elle. Un soir, que Michel, après une répétition de chant, lui défroisse sa robe, Apolline lui dit « Écoute, Michel, je n'aime pas que tu me tripotes comme ça. » Tout en continuant, Michel lui demande « Qu'est-ce que tu as, Dédé ?»« Rien. Et puis je m'appelle pas Dédé. Je veux pas qu'on me touche, voilà tout. » Elle se dégage. Michel, surprise, lui dit « Eh ben donc, t'es amoureuse ?» Je n'ai pas d'amoureux. Personne ne t'a touché. Cela ne te regarde pas.
Michel va s'asseoir. Les jambes écartées.
Bon, très bien. Mais tu vois le genre Sainte-Mitouche ici. Si à chaque fois qu'on te met la main quelque part, tu cries. Apolline lui dit, je suis ici, c'est pour apprendre à chanter. Il n'y a rien d'autre. Michel sort du tabac. Je fais une cigarette et elle lui dit « Tu veux te faire un nom ? Il faut faire des concessions. » Elle lui dit « Eh bien, pas moi. » Michel soupire. Apolline lui dit « Moi, je veux vraiment aimer quelqu'un. Je veux de l'amour, du vrai, pas du tripotage. Qu'est-ce que tu sais vraiment de l'amour, toi ?» Michel lui dit « Je sais ce que c'est qu'aimer. Je sais ce que c'est que d'être rejeté de dégoût par la personne que vous aimez. J'ai toujours aimé, mais d'une façon différente des autres. On m'a toujours rejeté parce que je ne suis pas comme les autres. Et ce que j'aime, je ne devrais pas l'aimer. » Apolline lui dit, tu es bien certain qu'avec tes idées, ta façon de te comporter, aucun homme ne peut t'aimer. Tu agis comme un goujat. Michel lui répond, qu'un homme ne peut m'aimer, ou le contraire. Mais cela n'empêche pas d'aimer. Apolline s'approche et lui demande, es-tu amoureuse en ce moment? Michel baisse la tête. Apolline lui demande, De qui ? Michel lui dit. D'une personne qui ne peut m'aimer à cause de ce que je suis. Apolline lui dit. C'est bien ce que je disais. Michel hausse les épaules et lui dit. C'est pas à cause de ce que tu crois. Apolline lui demande. À cause de quoi alors ? Michel sourit et lui répond. C'est pas pour les petites filles. Tu me prends pour une gourde ? Pas du tout, mais ton éducation ne t'a pas préparé à certaines vérités. Apolline hausse les épaules et lui dit. Mon éducation ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. La preuve, je suis ici. Michel lui dit. C'est peut-être un caprice de petite fille. Apolline lui dit. J'ai pas fait que ça. J'ai passé outre les convenances, la morale, par amour. Michel lui dit. On ne dirait pas. Je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai fait pour quelqu'un, ou plutôt même pour deux, mais qui pour moi ne faisait qu'un. Michel lui dit. Tu l'as fait, mais tu ne le referas pas. Je ne crois pas, non. Je suis prête à n'importe quoi pour préserver mon amour. Michel se lève. Et dit, j'ai soif, tu veux boire ? Non, merci. Michel lui dit, je te comprends. L'on partage qu'avec des gens qui vous ressemblent.
Et là, vers la table, il se trouve une bouteille et deux verres. Elle s'est servie et boit.
Apolline lui dit, je dois partir, ce fait tard. Tu connais le chemin ? À demain. Oui, à demain. Et elle quitte la pièce. Charles-André passe toujours ses journées près d'Adrienne, se remonte pas. Le médecin, un vieil homme à chevelure et barbe blanche, la taille moyenne, vient la voir toutes les semaines. Après l'avoir observée, auscultée, il dit à Pauline au salon.
Je ne comprends pas. Elle s'affaiblit de plus en plus. Elle est pâle, froide. J'arrive pas à savoir pourquoi. Vous lui donnez bien mes médicaments ?
Oui, docteur, que vous me l'aviez dit.
Si son état ne s'améliore pas, je serai obligé de faire appel à un de mes collègues.
Apolline lui dit, « Oh, surtout pas, nous vous faisons confiance. »
Bien, nous verrons comment les choses vont se faire.
Charles-André est auprès d'Adrienne. Il lui tient la main et lui dit
« Je suis sûr qu'elle m'a empoisonné. »
Il lui dit « Le docteur n'a rien trouvé ?»«
Pour son mari non plus. On n'avait rien trouvé. »
Il lui dit « J'ai bien réfléchi. Dès que tu iras un peu mieux, nous partirons tous les deux dans le midi. Nous louerons une petite maison au bord de la mer. » Elle lui dit
« J'ai réfléchi moi aussi. Quelque chose me dit que nous devons nous marier le plus vite possible. »
Charles-André panique un peu et lui dit
« Je dois en parler à Apolline et je crois qu'il vaudrait mieux, c'est que nous attendons que tu ailles mieux. »
« Non,
faisons vite, Le temps presse, la vie est courte. Il la tient serrée contre lui et lui dit « Mais que dis-tu là? Tu as toute la vie devant toi. J'aimerais bien, mais je suis si faible. » Il sent qu'elle s'abandonne. Elle devient molle. Les yeux sont fermés. Elle s'est endormie. Il reste un moment en la gardant dans ses bras, la dépose sur le lit, puis sort de la chambre. Il va retrouver sa sœur au salon. S'assoit auprès d'elle et lui demande « Que dit le médecin ?» Elle lui répond « Il ne sait pas. » Il soupire et lui dit « Je veux que nous nous marions le plus vite possible. » Elle lui dit « Mais c'est impossible, il faut attendre qu'elle guérisse. » C'est ce que je lui ai dit et... Mais elle dit que le temps presse. Elle pense que Mathilde l'a empoisonné. Elle hausse les épaules et lui dit « Médecin n'a rien trouvé. » Il lui dit « Si elle ne va pas mieux dans une semaine, je fais appel à un autre médecin. J'en connais un qui est spécialiste en produits toxiques. Je pensais le faire venir, mais en ce moment, il est absent. Il revient la semaine prochaine. » Apolline se pince les lèvres et lui dit « Tu risques de lui faire peur en le faisant venir. Peut-être, mais... elle pourra guérir. Je te dirai que j'ai hâte de me marier et dès la cérémonie faite, nous partons dans le midi. » Apolline lui dit « Tu es vraiment décidée à l'épouser ?»« Oui. » Elle reste songeuse. Charles et Apolline font manger Adrienne. Elle est assise sur son lit, le plateau devant elle. Elle se sent faible et surtout a envie de dormir. Le potage ne lui dit rien et même son odeur la dégoûte. Ce n'est pas que l'odeur du potage qui l'indispose, mais toute odeur de nourriture. Elle a un goût étrange dans la bouche, quelque chose comme de la menthe. « Je n'ai pas faim. » Charles-André lui dit « Il faut manger pour que tu reprennes des forces. » Apolline lui tend une cuillère de potage. Elle la prend, mais dès qu'elle l'a mise dans sa bouche, ça lui donne envie de vomir. « Je ne peux pas. » Apolline dit « Laissons-la, je vais apporter ses médicaments. » Elle prend le plateau.
Il sort de la pièce.
Charles-André aide Adrienne à s'allonger. Tu n'es pas raisonnable. Comment peux-tu prendre des forces sans manger? Hein? Tout à coup, elle est prise de panique malgré elle. Elle sent le temps passer. Elle se pend à son cou et lui dit « serre-moi très fort et embrasse-moi, je t'en supplie. » Il la tient enlacée, émue, et l'embrasse très fortement sur la joue. Il la tient serrée, très fortement. Il lui dit « Je te donne toutes mes forces, ma chérie, je te donne toutes mes forces. » La porte s'est ouverte, c'est Apolline, avec le plateau de médicaments, gouttes, comprimés, sirop. Elle pose le plateau sur la table de nuit.
Prends une carafe d'eau pour remplir le verre. Et ils mettent des gouttes. Elle lui tend le verre.
Tenez,
Charles André prend le verre et la fait boire. Puis, on lui donne le sirop, les comprimés. Une fois que tout est pris, Apolline repart avec le plateau. Charles-André reste près d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Demain matin, Charles-André va à la cuisine. Là, il retrouve Apolline. Elle est occupée à préparer les médicaments du matin pour Adrienne. Elle est tellement occupée qu'elle ne fait pas attention à son entrée. Il la voit sortir de sa poche un flacon et verser quelques gouttes dans la carafe. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle lève la tête en sursautant. « Rien ?» Il sait ce que c'est, mais ne dit rien, parce que la chose se fait depuis longtemps. Elle met la carafe sur le plateau et sort de la cuisine. Il la laisse faire. Les choses sont trop avancées pour réagir, car il risquerait de perdre Apolline. Cette perte, malgré lui, lui est insupportable. Oui, tout ce qu'ils ont vécu ensemble, cela renforce les liens. Et puis, quelque chose lui dit qu'Adrienne est si faible, faible, qu'elle va s'effacer de leur vie. Il sort de la cuisine, va vers la chambre, reste dans l'encadrement de la pièce. Il voit Apolline verser l'eau pour Adrienne. Son sang-froid, il en est fier. Il est fier d'elle et se dit qu'elle est bonne comédienne. Chose étrange maintenant, il sait qu'Adrienne se consume. Il s'éloigne d'elle. Elle lui est tout à fait indifférente. Il se met à penser qu'avec Mathilde, ce n'aurait pas été la même chose. Adrienne le voit dans l'encadrement de la porte. Elle lui sourit et lui dit « Viens ». Il lui répond « Non, tu dois te reposer. Je reviendrai que lorsque tu iras mieux. » Maintenant, Apolline sait qu'il est de son côté et il s'éloigne. Le frère et la sœur ne parlent pas de ce qu'ils savent. Pour Charles-André, l'incident est clos. La chose est déjà bien en route. C'est impossible de l'arrêter. Adrienne est triste que Charles-André ne vienne plus la voir toute la journée. Elle s'étiole et se ferme. Seule Apolline vient pour les repas et les médicaments. Charles-André la laisse entre les mains d'Apolline, puisque c'est elle qui agit, c'est elle qui a commencé le processus d'effacement d'Adrienne. Elle doit le finir. Adrienne est à Apolline. Ce n'est plus son histoire. Il souhaite qu'Apolline termine vite son entreprise pour que la chose soit close et finie. Les jours passent. Apolline agit avec sang-froid. Elle sait que son frère est de son côté. Le spécialiste n'a pas été appelé. Adrienne se demande pourquoi Charles-André ne vient plus la voir. Elle s'affaiblit de plus en plus. Le médecin est inquiet.
C'est un mal incompréhensible. Peut-être mortel d'un affaiblissement du sang.
Apolline va voir Michel pour son café spectacle. Elle continue à préparer son répertoire. Lorsqu'elle n'est pas là, Charles-André s'enfonce au salon et lit. Adrienne est si lasse qu'elle reste des journées entières à demi-consciente. Et puis, un matin, Apolline va dans sa chambre.
Et en ressort. Elle va dans la chambre de son frère. Entrez, elle entre. Il est au lit.
Adrienne est morte, il lui dit. Je vais prévenir le médecin. Et il se lève. Une heure plus tard, le médecin est au salon, assis, et fait les papiers. Il leur dit :
Je ne comprends pas pourquoi cette faiblesse. Elle est morte d'épuisement. Il est vrai qu'elle s'alimentait plus beaucoup. Ma foi, un de ces cas bien étranges. Voilà le permis d'une V. Il faudra que vous préveniez la famille.
Charles-André lui dit. Oui, bien sûr. Le médecin se lève, prend Charles-André dans ses bras et lui dit.
Je comprends, mon ami. Vous deviez vous marier avec elle. Courage.
Il regarde sa sœur et lui dit.
Je compte sur vous.
Oui, docteur, je vais m'occuper de lui. Peut-être que nous pourrions aller faire, après tout ça, un petit voyage.
Oui, vous avez raison. Ça lui fera le plus grand bien.
Il soupire et leur dit.
Bien, je vous laisse.
Et il sort de la pièce, accompagné du frère et de la sœur. Au revoir. Au revoir, docteur.
Une fois qu'il est parti, Apolline dit à son frère « Va falloir prévenir Mathilde. » Charles-André lui dit « N'oserai jamais. »« Eh bien, j'irai. C'est normal que je fasse la corvée. » Dans l'après-midi, elle va sonner chez Mathilde. Un domestique lui ouvre.
Madame Désir.
Je suis Apolline de Beaumandin et j'aimerais parler à Madame Mathilde de Saint-Auban. Le domestique lui répond.
Madame est absente.
Apolline pense que c'est parce que c'est elle. Mais c'est très important.
Madame est absente. Elle s'est mariée et est partie en voyage de noces.
Apolline est tellement surprise de cette nouvelle qu'elle demande « Avec qui ?»«
Avec Monsieur Paul Berlin. »«
Bien, merci. » »« Et il rentre quand ?»«
Dans 2 mois. »«
Pouvez-vous la prévenir qu'Adrienne a décédé ?»«
Ça serait difficile, mais je vais tout de même tâcher de lui envoyer un télégramme. »
Bien, merci. Elle s'en retourne. Charles-André ne veille pas Adrienne. N'a qu'un désir que le corps parte. Ceci n'est qu'une chose encombrante pour lui, qui ne représente plus rien. Plus de sentiments, rien. En entrant, Pauline lui dit la nouvelle du mariage. Charles-André lui dit, « Tiens, lui a réussi. Elle a dû se marier par dépit. Je suis sûr qu'elle pense encore à moi. » Après avoir fait les formalités pour l'enterrement, ils reçoivent une lettre de Mathilde leur disant de faire et de prendre les mesures pour les funérailles. Et, étant en Espagne, elle peut s'en occuper. Le frère et la sœur décident de l'enterrer le plus vite possible. Ils ont passé 3 jours avec le cadavre chez eux dans la chambre d'Apolline. Des religieuses ont été appelées pour faire la toilette du corps et la veiller. Charles-André ne pleure pas. Pour lui, un cadavre, ce n'est rien. Dès qu'Adrienne est morte, elle n'a plus été. Il n'en veut pas à sa sœur d'avoir fait cela. Elle l'a fait pour lui et pour tous les deux. Elle a raison. J'aurais pas été heureuse avec cette petite. Je n'aurais rien pu faire et nous aurions été pauvres, un pauvre couple. J'étais fou. J'ai cru l'aimer parce qu'elle était belle, gentille. Mathilde, c'est autre chose. C'est dommage qu'elle soit dangereuse. Pour un oui, pour un non, elle m'aurait fait passer dans l'autre monde. Les femmes, que de complications. L'enterrement s'est fait. On a trouvé une place au Père Lachaise. À part le père, et le frère et la sœur, il y avait le médecin et un domestique qui représentait Mathilde. Comme ils ne sont pas de la famille, les papiers seront du testament seront ouverts au retour de Mathilde. Mathilde et Pearl sont dans un hôtel à Madrid. Ils ont dans leur chambre d'hôtel, qui est une grande pièce avec balcon et salle de bain. Les meubles sont de style très typé espagnol. Après avoir passé la soirée au restaurant de l'hôtel, Mathilde a voulu aller dans sa chambre. Elle porte une robe du soir en satin beige. Lui a un costume marine. Une fois que la porte est fermée, elle lui dit « Je me sens lasse. Si tu permets, je vais me coucher. »«
Mais bien sûr, ma chérie. »
Pendant qu'elle se déshabille, il la regarde, les mains dans les poches. Ni l'un ni l'autre ne se sont mariés par amour. Elle, par dépit, lui, pour le gain. Fois qu'elle ait mis sa chemise de nuit, elle va s'asseoir à sa coiffeuse.
C'est fou comme je suis pâle ce soir. Et puis, j'ai froid. J'ai jamais eu autant froid, il lui dit.
Pourtant, il fait chaud ce soir. Nous avons au moins 30 degrés.
Il soupire et lui dit. Je sais. Cela provient de moi. C'est sans doute nerveux. Et puis j'ai très mal à la tête. Tu veux me préparer de l'eau sucrée, s'il te plaît?
Oui, bien sûr.
Comme chaque soir, avant de s'endormir, elle prend un pot d'eau sucrée. Elle dit que ça la calme. La femme de chambre met sur la table de nuit une carafe d'eau et un sucrier de sucre en poudre.
Il remplit le verre d'eau. Et met du sucre. Tourne le verre. Et va le lui donner.
Elle boit et lui redonne le verre. Elle lui demande, tu ne te couches pas?
Non, je crois que ça vaut mieux. Il vaut mieux que je ne me couche pas.
Pourquoi? J'ai tellement sommeil. Il se penche et la regarde bien.
Tu sais, il vaut mieux que je te dise. Malheureusement pour toi, il t'arrive la même chose qu'à ton mari.
Elle est surprise, panique. Que racontes-tu là?
Tu vas mourir de la même façon que ton mari.
Je ne comprends pas.
Tu comprends parfaitement bien. En cherchant un livre, je suis tombé par hasard sur une lettre. Une lettre de ton amant qui décrivait tout. Je sais tout, Mathilde.
Elle ne sait que dire.
Et tu vas mourir comme lui.
Elle lui dit. Je me défendrai, je te dénoncerai. Il hausse les épaules.
À quoi cela te servira-t-il? Tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut rien une fois qu'on a dans le corps cette chose. Et puis même, si tu me dénonçais, je dirais la vérité sur la mort de ton mari. Termineras ta vie en prison ou à la guillotine. À moins que tu meures avant, ce qui est fort probable.
Oui. Mais j'aurai le plaisir de te voir emprisonné. Il lui dit,
ne dépense pas tes dernières forces pour si peu. Regarde comme tu es faible.
Comment as-tu fait pour me donner?
Ah, tu deviens plus raisonnable dans l'eau que tu bois chaque soir. C'est moi-même qui te le préparais, sucré.
Elle lui demande, et pour avoir la chose,
tout simplement à l'hôpital, je connais un infirmier qui est morphimane et qui est prêt à tout pour en avoir.
Ton médecin, malheureusement, n'était pas très intelligent. Il disait dans sa lettre de quoi était fait son monstre.
Cette chose microscopique qui tue sans laisser de traces.
Ça fait longtemps que tu m'empoisonnes?
Ne dis pas empoisonné, disons plutôt contaminé. 15 jours, il te reste peu.
Et tu m'as épousé juste pour ça?
Non, pour ta fortune, que ta fortune. Mais dis-moi, Adrienne, c'est toi qui l'as tuée?
J'ai donné le flacon à Pauline. Je suis allé la voir lorsque son frère était absent. Je voulais savoir ce qu'elle pensait de son frère se mariait avec cette petite. Je ne sais pas. Sans vraiment réfléchir, j'ai pris le flacon. Lorsque j'ai senti dans la conversation qu'elle n'était pas heureuse que son frère se mariât, je lui ai expliqué
ce que contenait le flacon et a tout de suite compris. Je suis parti sans. Tu vas me laisser mourir comme ça. Tu sais très bien qu'il n'y a rien à faire. Elle sourit et lui dit « Je pourrais changer mon testament ?» Il lui dit « J'y ai pensé. C'est pour cela que je l'ai fait à l'étranger. » Elle ose les épaules et lui dit « Il y a la poste. Je reste près de toi. Et puis, tu t'amenuises. Tu seras tellement faible que tu ne pourras plus jamais rien faire. » Elle lui demande « Je vais mourir ici ?»« Oui, tant que tu ne seras pas morte, nous resterons en Espagne. Tu vas vivre tes derniers jours unis avec un homme comme tu ne l'as jamais été. Je serai constamment près de toi. Nous resterons enfermés dans cette chambre jusqu'à ta fin. » Elle lui dit « Ça va paraître bizarre que nous sortions jamais. On va se poser des questions. Ma mort aussi va trouver bizarre. » Il lui dit « Ne t'en fais pas. Je dirai à l'hôtel que tu te sens lasse et que tu as besoin de voir un médecin. Je ne risque rien. Le médecin ne verra que du feu. Tu vois, j'ai pensé à tout. »
Et se déshabille. Et va à l'armoire. Prend une couverture. Il va étaler sur le divan.
On ne sait jamais si tu meurs durant la nuit. C'est gênant de coucher près d'un cadavre.
Et il s'allonge.
Tu peux éteindre la lumière. Bonne nuit.
Pendant ce temps, le frère et la sœur continuent à vivre ensemble. Charles-André aimerait demander à sa sœur pourquoi elle a fait cela et avec quoi. Qu'est-ce que ce poison et où elle l'a-t-elle eu? Mais il n'ose pas le lui en parler. Elle, elle se demande pourquoi il n'a rien dit et se dit que son silence l'unit à elle pour toujours. Ils vivent ensemble en ne se parlant que très peu, mais ce n'est pas un silence hostile, plutôt un silence calme et tranquille. Il essaie d'écrire la journée pendant qu'il est seul. Apolline va toujours chez Michel. Elle a pris par cœur les chansons et sait se tenir par sur scène.
Au jour des fiers enivrements, je veux au grand soleil qui brille avoir des mâles pour amants.
Un soir, Michel lui dit :
tu es prête. On ouvre la semaine prochaine. Je vais faire des affiches d'aider de Montmartre au Beuglot.
Apolline lui dit : j'ai peur. Michel lui prend le menton et lui dit : avec une gueule comme la tienne, on ne craint rien. Apolline lui dit : faut que je te dise une chose. J'aime pas lorsque tu me touches. Elle lui lâche le menton. Tu fais ta bégueule ? Tu es en sucre ? Non, c'est pas ça. Mais j'aime pas que toi, tu me touches.
Qu'est-ce que j'ai? J'ai une main sale?
Non, mais tu es une femme, voilà.
Et alors?
Je t'ai pas entendu dire plus.
Tu me comprends?
Michel va s'asseoir.
Le café a ouvert. Apolline, tremblante, a fait son tour de chant. Habillée d'une robe noire, maquillée de blanc avec du noir autour des yeux, au milieu des cris, des rires, des injures.
À la fin, elle a été tout de même applaudie. Michel est heureuse.
Apolline, après le tour de chant, est allée s'asseoir à côté de Michel. Au milieu de la salle, à une table devant deux verres et une bouteille de vin.
Ça fume, ça boit, ça crie.
Apolline se sent déconcertée et se demande ce qu'elle fait ici.
Après une semaine de tour de chant, où elle a chanté tous les jours, le café n'a pas des amplis. Michel est contente, mais Apolline en a assez.
ces merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir,
après la soirée, ou plutôt la nuit, une fois que le café était fermé, Michel sert un café à Pauline et elle. Pauline, en prenant son café, lui dit « Écoute, j'ai bien réfléchi, j'arrête. » Michel la regarde surprise. « Pourquoi ?» Parce que je me sens mal à l'aise. Moi, tu sais, militer n'est pas mon affaire. Michel lui dit, militer, militer, c'est l'affaire de tous. Pauline nous les épaules. Peut-être, mais moi, je ne suis pas... Je suis qu'une artiste. Lorsque je monte sur scène, c'est pour parler de choses, jouer, pour que les gens puissent sortir de leur vie quotidienne. Toi, ton truc, non. C'est pour faire du militantisme. Moi, si je veux faire du militantisme, je vais dans une cellule d'un parti ou dans un syndicat. Mais là, ce n'est pas mon truc. Michel lui dit, tu es bien une bourgeoise, toi. Le peuple, tu n'en as rien à faire. Ne dis pas ça. Mais est-ce que tu crois qu'en leur chantant leur misère, tu les aides ? Michel lui répond. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Hein ? Je mets le spectacle au service de leur cause. Je ne suis pas écrivain. Si j'étais écrivain, j'écrirais. Ou si je savais me battre, je me battrais. Chacun son truc, non ? Tu as raison, chacun son truc. Et puis, c'est pas le mien. Puis toutes ces histoires d'égalité, de fraternité, j'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Michel hausse les épaules et lui dit. Tu t'imagines que les grands de ce monde ne sont pas faits comme toi ? Je ne dis pas cela. Mais je crois qu'il y a des hommes plus aptes à diriger que les autres. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. En égalisant tout le monde, tu mets tout le monde pareil. Les intelligents avec les idiots. Ceux qui ont passé des années à étudier pour que l'on aille de l'avant dans le savoir avec les ignorants. En faisant ça, tu fais que l'intelligent doit être moins pour qu'il ne dépasse pas l'ignorant. Michel lui dit, tu es aussi contre l'égalité des sexes ? Un homme et une femme sont différents. On n'y peut rien. C'est la nature qui le veut. Une femme a plus de devoirs. Il doit faire attention à sa responsabilité, à cause qu'elle peut avoir dans son sein une vie qui est autre que la sienne. Et si elle a cette vie, son corps ne lui appartient plus en entier. Elle le protège avec cette vie étrangère à elle. Les sexes sont différents, mais cela ne veut pas dire que l'on doit asservir l'autre ou que l'un est plus intelligent que l'autre. Michel lui dit, une femme doit être libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Elle doit être enceinte si elle le désire. Elle doit vivre sa vie sans contrainte, comme un homme. Pauline lui répond, elle sait être enceinte malgré elle. Elle se le fait enlever, arracher. Mais cet enfant qu'elle a, qu'elle porte, ne lui appartient pas en propre. L'homme dans tout ça, si lui ne veut pas, Michel sert du café. Et lui dit, le corps de la femme lui appartient. L'homme n'a rien à dire. C'est immoral ce que tu dis là. Michel hausse les épaules. Je me moque de la moralité bourgeoise. Toi, tu es toujours moral dans tes gestes. Pauline ne répond pas. Elle pense à Adrienne, à ses frères,
à l'opium, à tout ce qu'elle a fait. Elle baisse la tête et lui dit « Des fois, je me dégoûte. J'ai fait des choses sans réfléchir. J'étais jeune, mais ce soir, cette nuit, d'un coup, je me sens adulte. Peut-être que j'en ai assez de cette vie. Je veux être comédienne. Dire de belles phrases, être admirée, vivre dans une belle maison. Puis là, depuis que je suis à Paris, depuis que nous sommes à Paris, nous vivons une vie sordide. » Michel lui dit, « Tu as appris la vie, la belle vie. Allez, il se fait tard. Demain, il va falloir remettre ça. »
Radio Canus a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 17e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, cinéma, vidéo, radio production, vous a présenté une cassette OB.
Canus.
La radio utile.